fait, je voulais pas d'enfants. Et puis forcément, quand j'ai rencontré le papa, la question d'avoir des enfants, surtout que lui en voulait, s'est très vite posée. Et moi, j'ai dit, bah oui, mais moi, si j'ai des enfants, je ne veux pas vivre le sentiment de culpabilité. Je ne veux pas leur transmettre mon problème de vue.
Je voyais pas ma vie autrement que comme ça. Ça, c'est clair. Même si c'est plus compliqué que je pense quand même pour une maman classique, on va dire. C'est un peu plus compliqué, c'est vrai.
On avait envie, avec mon mari, de concrétiser notre amour et de dire, oui, on voudrait un enfant. Alors, c'est vrai que ça paraît irresponsable. Je me suis fait traiter tous les noms, ingérables, tout ce que, voilà.
Je crois qu'elles ont un désir d'enfant comme toutes les femmes. Elles peuvent être handicapées, mais elles se sentent femmes comme toutes les femmes.
Maternité et handicap. Laetitia Krupa, Anna Smuk.
Bonjour, je suis Béatrice, je suis sage-femme. Enchantée.
Enchantée.
Allez, viens avec moi. C'est un accompagnement global, vous allez me voir tout le temps, malheureusement peut-être. Et on va faire un bout de chemin ensemble. Ce qui veut dire qu'après votre accouchement, les suites de couches, la visite postnatale qui se fait 6 à 8 semaines après, vous me reverrez, si vous le voulez. Et cet accompagnement, il peut durer quand vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez toquer à ma porte, au téléphone, me dire « Béatrice, j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de voilà. » Il n'y a pas de problème. Voilà, ici, c'est le... Tout ce service-là, ce sont les consultations de maternité et de gynécologie-chirurgie. Et dedans, on a notre consultation parentalité-handicap et la consultation de gynécologie-handicap pour le suivi gynécologique et tout ça. D'accord ?
Béatrice Idiard-Chamois, sage-femme, a créé il y a 10 ans la première consultation pour parents en situation de handicap à l'hôpital mutualiste Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris. La première consultation est la seule en France aussi complète, qui va de la prise en charge sociale à l'accompagnement médical. Une révolution, un coup de pied dans la fourmilière fermée de la normalité. Être femme, handicapée et mère, Béatrice Idiard-Chamois en a fait un combat.
Donc on va repartir du début. La consultation gynéco, elle a été créée là, il n'y a pas longtemps, hein, en 2015. Mais la consultation handicap et parentalité, vous l'avez créée il y a combien de temps maintenant ?
Bientôt 10 ans, en octobre 2006.
D'où vous vient cette idée ?
Alors, je suis en situation de handicap parce que j'ai une maladie génétique, mais je ne l'ai pas créée parce que j'avais ça. D'ailleurs, j'étais totalement ignarde, si je puis dire, sur le handicap. J'y connaissais absolument rien. Et en 2003, mon chef de service, Henri Cohen, m'a demandé de participer à un groupe de travail avec la mission handicap de la PHP pour pouvoir travailler sur vie affective et handicap moteur, pour pouvoir faire quelque chose par rapport à la parentalité. Donc j'assiste au groupe de travail et on me demande d'intervenir pour le colloque. Moi j'ai dit, écoutez, j'y connais absolument rien sur le handicap, je vais témoigner à titre de maman parce que j'étais déjà maman. J'ai dit, je vais témoigner de façon naïve, entre guillemets, et tout le monde a dit, oui c'est formidable, on va faire quelque chose, etc. Et du jour au lendemain, tout est retombé. Alors, allô comme on dit, je suis allée voir mon chef de service, je lui ai dit, mais attendez... Moi, je dis, j'ai envie de faire quelque chose. Mais je lui dis, je ne veux pas m'arrêter sur le handicap moteur. On va peut-être faire un peu plus, quoi. Voilà. Déjà, il faut que je me forme. Parce que je dis, c'est pas parce que je suis dans un fauteuil que je connais tout sur le handicap. Il me dit, OK, tu te formes.
Docteur Henri Cohen, responsable du département mère-enfant à l'Institut mutualiste Montsouris.
Moi, je suis sensibilisé à tout ce qui est inégalité, injustice. On n'a pas tous la chance d'être en bonne santé, de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, avec une tête qui marche bien, un corps qui marche bien. Et je pense qu'il ne faut pas laisser des gens au bord de la route, il faut les aider. Et comme le problème du handicap n'est pas un problème qui est considéré comme essentiel encore maintenant, il l'était encore moins avant, j'avais quelqu'un qui avait envie de se consacrer à cela, j'avais quelqu'un qui connaissait le problème, et donc j'ai dit à Béatrice, au fur et à mesure de son travail, du développement de son travail, à chaque fois banco, en la soutenant auprès de la direction, en la soutenant au niveau des actions qu'il y avait à mener.
Est-ce que ça veut dire, Dr Cohen, que sans Béatrice, vous n'auriez probablement pas ouvert ces consultations?
Sans Béatrice, ça c'est certain, j'aurais rien fait. Ça. Je serais passé à côté du problème, ça c'est clair. Ouais.
J'ai appris les techniques de guide pour les personnes non-voyantes avec un fauteuil, moi-même avec un fauteuil, pour pouvoir guider quelqu'un non-voyant dans l'hôpital, etc. Parce qu'il fallait adapter par rapport à mon handicap, à moi. Donc voilà, j'ai fait plein de choses comme ça pendant 3 ans. J'ai appris la langue des signes, parce que je voulais pas écarter les personnes sourdes. Et puis j'ai fait un travail social qui a donné lieu à un article, qui est l'histoire de la personne handicapée à travers les siècles. Donc je suis montée de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et j'ai potassé toutes les lois depuis 1898 jusqu'à nos jours. Donc la dernière loi, c'est la loi du 11 février 2005. Allez, go. Je rentre. C'est bon. Alex, si tu laisses passer ta maîtresse avant, peut-être quand même. Ça serait peut-être plus poli. Voilà. Allez, tu me donnes ta main?
Oui.
Voilà.
Voilà, parfait.
Et t'as ton sac juste à côté sur la chaise à côté, parce que comme Yann n'est pas là, je peux pas le mettre sur la place du chef aujourd'hui. Hein.
Pose, Axissou. Vas-y, va ta place. C'est bien, mon loulou.
Bon.
Mais alors vous êtes la première personne que l'on voit quand on a envie d'avoir un enfant et que on est en situation de handicap. C'est ça, on fait toc toc toc, bonjour Béatrice, voilà, j'ai envie d'avoir un enfant, est-ce que c'est possible?
Alors oui, c'est possible, je suis facilement abordable, mais après, voilà, je suis pas quelqu'un à dire le coup près, non, vous pouvez pas, oui, vous pouvez. Je suis pas comme ça. D'abord, j'accueille le couple, j'aime bien recevoir le conjoint aussi de temps en temps quand je peux, parce que bien évidemment, il y a toujours les obligations par rapport au travail et tout, mais c'est vrai qu'en général, sur un projet de grossesse, j'aime beaucoup accueillir le couple ensemble pour voir par rapport à eux, par rapport à leur désir d'enfant, par rapport à leur projet. Ça c'est hyper important. Après je regarde un petit peu la pathologie dont souffre la personne. Alors les consultations sur des projets de grossesse, c'est 99,9% du handicap moteur, et donc c'est vrai que je regarde par rapport à la pathologie, par rapport au suivi qui a été fait avant, et après je leur dis oui, c'est possible, mais avec une surveillance particulière. Alors bien évidemment, je ne peux pas voir tout le monde, parce que d'abord il y a des gens qui ne me connaissent absolument pas, et c'est tant mieux. Et puis il y en a d'autres voilà, qui me connaissent via internet parce qu'ils font des recherches et ils viennent me voir. Et malheureusement, je déplore actuellement cette chose-là, c'est qu'on a des patientes de toute la France qui viennent me voir encore aujourd'hui en 2015 de toute la France. Donc ça m'embête un peu, et récemment j'ai une patiente de Belgique qui est venue, donc ça m'embête encore plus.
Ça Ça, je t'en ai mis 2.
C'est super.
Est-ce que ça te va?
Ça me va.
Il faut que tu... Alors, par contre, après, il faudra me remettre tout ça. Il faut que je les appelle en salle pour qu'elle les récupère. Voilà.
Pour sa consultation gynécologie et handicap, Béatrice travaille avec le docteur Nathan Vrobel.
Il faut que je vérifie que j'ai une paire de ciseaux pour couper son fil.
Alors, regarde, parce que sinon, je vais en chercher. Regarde si t'en as.
Non, mais je vais...
Je pense pas, parce que sûr...
Non,
mais attends, je vais t'en chercher.
Pourquoi vous êtes venu à cette consultation-là? Est-ce que vous n'en aviez pas besoin? Votre cabinet marche bien. Pourquoi vous décidez d'aider ce public-là?
La réponse est vraisemblablement compliquée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours été intéressé. Et je pense que c'est fondamental, la différence. que la différence est quelque chose de fondamental. J'ai moi-même vécu dans cette différence, pas dans cette différence-là, dans cette différence-ci, du handicap, c'est pas de ça dont je parle, mais dans une autre différence. Et je pense que la différence, c'est ce qui donne à penser.
Dans quelle différence vous avez vécu ?
Bon, moi, j'ai toute une enfance et une adolescence qui est tapissée par les suites en particulier de la Shoah et de la déportation. Je n'ai pas été déporté, je suis né après la guerre. Mes parents étaient déportés et c'est déjà une différence.
Et la rencontre avec Béatrice, ça a été déterminant aussi dans votre décision d'accepter cette proposition ?
Oui, parce que Béatrice, c'est un booster. C'est un booster. Une heure, ça fait 60 minutes, donc elle a 60 idées par minute. C'est quelqu'un qui vient vous piquer les fesses tout le temps, qui vous aiguillonne. Donc c'est quelqu'un qui vous met au travail.
Ce jour-là, Béatrice et Nathan accueillent Laurence, une femme en fauteuil atteinte de sclérose en plaques. Elle vient pour la pose d'un stérilet.
C'est Béatrice la star. Bah ouais, la starlette.
Bon, on arrête de rigoler, on va bosser.
Ouais,
allez.
J'espère que ça marche.
Mais sinon, je suis
Est-ce
là.
Est-ce que je vais grossir ?
Non.
Il paraît que ça fait...
Grossir ?
Non. C'est parce qu'il y a le stérilet, c'est tout ?
Oh,
je rigole. Hein.
Non, vous n'allez pas grossir, non.
Bon. Non, parce que c'est hormonal.
Oui, mais c'est une diffusion locale, c'est pas une diffusion générale.
D'accord.
Bien. Il faut travailler, hein. Voilà, on va s'installer sur la table.
D'accord.
Je monte les fesses. Hein.
Oui,
voilà,
vas-y,
c'est bon.
Vas-y.
C'est bon.
Ça va, madame Harry ?
Très bien.
Bon, ok. Tiens ça, Béa. Il faut tirer la valve. Il faut la tirer. Ok. Ok. On bec, là, les filles, si vous pouvez. Merci, ça va. Un ultime effort. On y va. On y est. Ciseaux, et c'est gagné.
Merci, docteur. C'était pas évident, alors.
Docteur Vrobel, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que c'est plus compliqué techniquement de travailler avec ces patientes qui sont porteuses de handicap ?
Techniquement, oui, c'est plus compliqué. Techniquement, d'abord, il faut une accessibilité, il faut du matériel, il faut une table d'examen qui soit adaptée, qui soit modulaire. Et puis, il y a la question aussi, pour beaucoup d'entre elles, du transfert d'un fauteuil à la table. Donc, tout ça, les choses sont un peu plus compliquées.
Là, avec Laurence, justement, la patiente que vous aviez juste avant, c'était compliqué du fait de son handicap ?
Absolument. C'était bien plus compliqué chez Laurence. Ça a nécessité un outillage plus important. Ça a nécessité l'aide de personnes qui ont pu m'accorder leur assistance pendant l'intervention que nous avons réalisée. Oui, c'était beaucoup plus compliqué. C'est une intervention qui aurait pris, disons, 10 minutes chez une patiente valide. Et là, ça nous a pris, vous avez bien vu, quelque chose comme 3 quarts d'heure, je pense, à peu près. Un petit peu moins, peut-être, je ne sais pas.
Laurence, vous avez eu 5 enfants ?
Oui.
Vous avez accouché normalement, il y a eu des complications.
Oui, non, normalement, mais on ne savait pas pour après.
C'est-à-dire après?
Bah après les enfants, ça peut se compliquer.
Pour vous?
Et moi, j'ai perdu la marche. Après. Tant pis. Excusez-moi, j'ai la voix qui baisse, c'est ma pathologie.
Et aujourd'hui, vous vous dites, tant pis, ça valait le coup?
Bien sûr. Surtout que mon mari m'a divorcé. Oui. C'est pas grave. Les hommes sont pas toujours solides.
Donc ça veut dire que vous êtes toute seule avec vos enfants aujourd'hui?
Oui. Bon, j'ai du monde.
Vous avez de l'aide?
Des amis de l'aide. Je suis pas née comme ça. Malheureusement. Il y en a. On est beaucoup plus tolérants après.
Vas-y. Oui, allô? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et... Tout à fait, vous voulez étudier avec moi à l'Institut Mutualisme Montsouris par rapport à votre situation de handicap? D'accord, ok. Et vous devez accoucher pour quand? Ok, alors là, nous sommes le 1, vous êtes à 27 semaines à peu près. Est-ce que vous pouvez venir demain? Alors, je vais reprendre votre nom, votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît.
Béatrice, vous acceptez toutes les demandes?
Des deux demandes raisonnables, oui.
Comment vous faites? Vous n'avez pas un planning surchargé? Vous arrivez à rentrer tout le monde? Parce que vous ne travaillez pas tous les jours.
Bah non, je ne travaille pas tous les jours, mais je travaille chez moi. Donc les choses que je peux faire chez moi, je les fais chez moi. Notamment des comptes rendus, des choses comme ça, je les fais chez moi.
Le sourire scotché à ses lèvres, l'énergie toujours débordante, l'empathie chevillée au corps, Béatrice Idiard-Chamois s'est imposée dans l'hôpital comme un personnage à la forte gueule. Une tornade qui masque un parcours de vie atypique et tortueux, entravé par sa maladie génétique et marqué par une enfance à part.
Je suis née non-voyante. Pendant 15 ans de ma vie, j'ai erré un petit peu dans la non-voyance avec une maman qui n'a pas voulu que j'aie des aides et que je parte dans une institution, mais surtout qui ne m'a pas après aidée trop dans le monde, entre guillemets, normal, quoi, valide. Et donc, j'étais une petite fille très, très renfermée, qui ne parlait pas du tout. Ça change maintenant.
On a du mal à l'imaginer, mais si vous nous le dites, on vous croit.
Je ne parlais pas du tout. Je ne pouvais pas sortir parce que ma maman m'interdisait de sortir jouer avec les copines parce que je voyais pas. Mais par contre, dès que j'étais au collège, il fallait que j'aille toute seule traverser un grand boulevard et tout, avec la grosse difficulté de pas voir la couleur des feux, etc. Donc et pas voir les voitures arriver, enfin les voir arriver au dernier moment, quoi. Donc c'était assez chaud quand même.
Voilà. Et pourquoi votre maman, elle ne voulait pas prendre en compte votre handicap?
Je pense qu'elle ne se rendait pas compte, mais ça je lui ai dit l'année dernière, ça je pense qu'elle ne s'est pas du tout rendue compte de l'atteinte que j'avais. Parce que c'est vrai que je voyais quand même un tout petit peu, j'avais un 20e de vision, mais ça ne me suffisait pas pour pouvoir me déplacer à l'extérieur. Et comme j'avais pas de signe de reconnaissance, entre guillemets, parce que j'avais pas de canne blanche, maman a refusé à Cannes, etc. Donc j'aurais pu l'avoir. Bon, c'est pas grave, j'en suis pas morte. Hein. Mais elle n'imaginait pas l'importance, enfin, la gravité de mon atteinte.
Mais pourquoi vous ne lui disiez pas à votre maman, je ne vois rien? C'est simple à dire, non?
Ah oui, mais quand on a une maman, c'est pas facile non plus, toujours. Elle a refusé de me mettre à l'Institut National des Jeunes Aveugles pour apprendre le braille, justement. Et j'ai suivi un cursus. Alors, ma maman était institutrice aussi, donc je pense que si, c'est que... c'était certainement... il fallait marche avance et tais-toi, quoi, voilà. Mais bon, voilà, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et la page est tournée. C'est vrai que j'ai quand même vachement galéré. J'avoue honnêtement que, rétrospectivement... Et ça, c'est marrant parce que j'avais complètement oublié mon handicap visuel. Bon, je l'avais complètement mis dans un coin, je l'avais oublié que j'avais eu des problèmes visuels pendant 15 ans de ma vie et ça m'est revenu en pleine face quand j'ai ouvert cette consultation, parce que quand j'ai discuté avec des femmes qui avaient la même vision que moi et les mêmes ressentis de ce qu'elles voyaient, etc., j'ai dit, mais toi, t'as eu ça toi aussi. Pouf, ça m'est envoyé dans la figure et ça a été vraiment un superbe miroir parce que c'est arrivé vraiment en pleine figure comme ça et assez violent. Et je me suis dit, bah oui, ma tête était comme ça, donc bah oui, voilà.
Ça vous sert, cette épreuve, Béatrice, vous sert pour maintenant accueillir les femmes qui veulent avoir un enfant et les accompagner?
Oui, oui, bien sûr. Bah oui, parce que après, moi, j'ai énormément changé. Par rapport à ça, j'ai repris beaucoup de recul sur ma profession de sage-femme par rapport à cet accueil auprès des personnes en situation de handicap. Et la théorie est une chose, la pratique en est une autre et la rencontre en est une autre. Et ça, la rencontre avec ces différents couples m'a permis d'évoluer dans ma pratique.
Donc elle a travaillé comme une sage-femme pendant un certain temps. Et puis un jour, de manière très brutale, elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle est devenue paraplégique. Un jour, très précisément, d'un début d'après-midi, elle a pu marcher. Elle n'a jamais remarché ensuite. Il n'était pas question pour moi de lui dire « tu ne travailles pas ». On a eu une discussion un peu plus tard... violente, où devant les difficultés et l'aggravation un peu de sa maladie, en particulier sur le plan moteur, je lui ai dit qu'il serait bien, peut-être qu'elle en pense à s'occuper de sa famille et de sa fille. Et là, je me suis pris une volée de bois vert, où elle m'a fortement expliqué, vivement expliqué, qu'elle avait besoin de travailler, que le travail, c'était extrêmement important pour elle, et que c'était pas à moi de juger de ce qu'elle devait faire ou pas.
Aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb, placenta, béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde, carbone.
Et c'est aussi contre l'avis des médecins que Béatrice a fait un enfant, au risque de sa vie. Mathilde a 21 ans aujourd'hui.
Pour moi, c'est une maman comme les autres. Enfin, je veux dire, ouais, voilà, elle a juste un fauteuil.
Et une énergie à revendre.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Elle a quand même des journées, mais c'est incroyable. Enfin, c'est combien d'heures de travail, j'en sais rien, mais elle se lève très tôt.
Oui, oui, pour éviter les bouchons. Et sinon, des fois à table, c'est saoulant parce que des gens l'appellent. Donc moi, elle me fait la guerre pour pas que j'ai mon téléphone, mais elle, dès qu'il y a son téléphone qui sonne, elle décroche. Donc ça m'énerve parce que moi, je fais attention de bien respecter ça. Et pareil, en vacances, des fois, moi, je craquais parce que je disais, mais pose ton portable parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Alors elle me disait, tu peux pas comprendre. Je fais, si, je peux comprendre, mais si toi tu prends pas soin de toi, tu pourras pas soigner correctement. Parce que si t'arrive une tuile, qu'est-ce qu'elles font les patientes?
Est-ce qu'elle a mal, votre maman? Ça, on n'en sait rien.
Oui, oui, en fait, sa maladie lui entraîne des douleurs. Enfin, elle est sous doliprane et il y a des moments, le doliprane fait plus trop effet et elle a très mal. Et après, on s'en rend pas compte parce que. Elle se plaint pas.
Et vous, est-ce que vous pouvez avoir cette maladie?
Alors, c'est génétiquement transmissible. J'avais une chance sur deux de l'avoir. Enfin, une chance.
Un risque
sur deux de l'avoir et je ne l'ai pas eu.
C'est un sacré pari quand même. Hein. Vous le comprenez ça, son choix ?
Oui. C'est vrai que c'est compliqué à dire dans ma situation de dire est-ce que je l'en aurais voulu, mais je pense pas parce que c'était son choix de femme, de mère. Et ça, personne n'a le droit de le juger.
La plus belle planète, 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 la plus planète, la belle planète, belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé, c'est la plus belle maman sur la plus belle planète.
Est-ce que vous avez demandé tout de suite si votre fille avait le même syndrome ? Vous l'avez demandé à quand ?
Non, je m'en fichais. Je m'en fichais qu'elle l'ait ou pas. Mon souci premier, c'était pas ça. Elle était en bonne santé, point. Ce que n'arrivent pas à comprendre les personnes valides, entre guillemets, parce que, bon, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais les personnes qui ne souffrent pas de handicap ou de choses comme ça, ou de maladies graves, s'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut très bien vivre avec une maladie. Moi, ma maladie génétique, je suis née avec. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'entre guillemets la normalité. Moi, j'ai toujours vécu avec ma maladie. Je fais avec, point barre, et j'en suis pas morte pour autant, et j'en suis pas plus mal.
Oui, mais ça vous regarde. À la limite, c'est votre vie qui est comme ça. Mais donner et transmettre cette maladie à un enfant, c'est autre chose. Prendre la responsabilité de lui donner ce fardeau, parce qu'on ne peut pas dire non plus que ce soit un cadeau, c'est autre chose.
Ça, je ne sais pas si c'est un cadeau. Parce que moi, je trouve que ça a été un merveilleux cadeau. Parce que je pense que je n'aurais pas fait ça si je n'avais pas été malade.
Marie-Laure, aveugle de naissance, attend son deuxième enfant. Elle vient pour une dernière visite de contrôle avant l'accouchement.
Allez, on y va, Axis.
Vamos.
Allez, vamos. Allez, go. Je rentre. C'est bon. Axis, tu laisses passer ta maîtresse avant, peut-être, quand même. Ça serait peut-être plus poli. Voilà.
Allez.
Tu me donnes ta main ?
Oui. Pose Axisou. Vas-y, va à ta place. C'est bien, mon loulou.
Bon. Alors, comment vas-tu ?
Bien, sauf que je suis fatiguée.
Ouais, t'es KO.
Mais je pense que la chaleur, il fait. Mon gros bidon, il fait aussi.
Puis t'as l'eau Eval, hein ?
Ouais,
du coup,
ouais, ouais.
C'est pas pareil.
Ouais, c'est vrai qu'il faut jouer avec le grand. Hein.
Ça, c'est clair. Hein. Bon. Alors, consultation, elle m'a tout marqué, elle est très gentille. Alors, je vais te dire s'il y a quelque chose, parce que du coup, moi non plus, j'étais pas... Bon, tout est négatif, c'est bon, il n'y a rien.
C'est parfait.
Voilà, donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de protéines, tout est bon. Voilà, donc c'est parfait.
Ouais.
Donc du coup, le bébé étant toujours en siège... Tu as un rendez-vous prévu donc avec la sage-femme dans 15 jours à peu près. Ils vont décider par rapport à la position du bébé.
Oui.
Voilà.
S'il est toujours en siège, ce qui est très fortement probable, ben.
Ok.
Césarienne. Et voilà. S'il s'est retourné, ben.
Ok.
Ouais, cool. Mais voilà.
Contraction ?
J'en ai un peu plus là, il y a une semaine.
D'accord.
Mais c'est toujours des fausses. Enfin,
oui, c'est des fausses contractions.
Genre, voilà. Il fait son lourd, mais c'est pas. C'est pas douloureux, quoi.
On va passer à l'examen. Je vais écouter quand même les bruits du cœur. Mais si tu veux que je fasse un toucher vaginal, c'est comme tu veux. Moi, ça me dérange pas.
Moi, je veux
pas
bien quand même.
Ok, d'accord. Pas de souci. On va voir, on va faire le point comme ça, c'est voir si ton col est modifié. Viens avec moi.
Mais il doit être haut parce que même là,
tu sens l'estomac.
Ouais, ouais.
Voilà. Je te monte un peu pour pas que tu tombes. Voilà. Et tu peux installer tes jambes. Vas-y. Voilà.
Une
et deux.
Et deux.
C'est bon.
Alors attends.
Voilà. On va mesurer d'abord. Je vais voir comment il est positionné. Il a un dos à droite pour moi aujourd'hui.
Oh, il a changé alors.
Ah, je pense qu'il a un dos à droite. Hein.
pour moi. Regarde, ici, tu vois.
Ah oui, il n'était pas là avant.
Ah ouais, pour moi, oui. Pour moi, il est de ce côté-là. Hein.
Il s'est remis avec son petit doigt droit.
Je le mets un peu plus haut parce que comme elle est...
Ah si, on l'entend.
Nickel, hein?
Ouais.
Ça galope en tous les cas.
Ouais.
T'as, voilà. Accélération. Nickel, hein?
Ouais, nickel.
Bon, 140, 150, c'est nickel.
Oh bah ça va. Ah.
Il n'y a aucune contre-indication pour accoucher par voie basse avec votre handicap?
Non. Pour moi, il n'y en a pas. Pour ce qui me concerne, moi, il n'y en a pas. Il se peut que dans certaines pathologies visuelles, il y en ait pour des futures mamans qui ont eu des décollements de rétine, par exemple.
Et alors, vous avez déjà eu un enfant?
J'ai déjà un enfant. Mon fils est né à 3 ans et demi. Et donc, on sera 4 à la maison à la naissance de celui-là.
Donc, vous étiez déjà aveugle quand il est né?
Oui.
Est-ce que vous êtes posé la question de ne pas avoir d'enfant? Est-ce que ça a été une question pour
vous? Oh là là, que ça a été une question. Ça a même été une interdiction que je me suis faite pendant très, très, très longtemps. Puisque du côté de ma famille, le risque est héréditaire. C'est-à-dire qu'il y avait des chances que je transmette à mon fils, d'une part la cataracte et ensuite un glaucome. Maintenant, au niveau du diagnostic et du dépistage, on a fait énormément de progrès. Il aurait été pris en main plus tôt pour ne pas perdre la vue. Là, jusqu'ici, je touche du bois. Et là, on le fait suivre régulièrement et il n'a aucun problème de vue.
Le premier souvenir que vous avez quand vous a posé votre bébé sur vous?
Et je me rappelle qu'il était tout collant et que j'ai aucune importance et que je le touchais partout. Je regardais si ses fesses elles étaient bien en place. C'est ridicule, mais s'il avait bien la même longueur des jambes, je sais pas pourquoi, alors que bon. Et que ça fait un peu. Oh, mais j'étais rassurée de voir que tout allait bien. Après, ce qui me manque. Enfin, quand il était bébé, ce qui me manquait beaucoup, c'est pas de savoir si il avait ses cheveux noirs et bouclés, ses yeux qui devenaient marrons, son nez comme ci, comme ça, parce que ça, je le touchais beaucoup de toute façon. Moi, je crois qu'il a reçu plein de bisous et je l'ai touché tout le temps, ce bébé, mais voilà. Tant pis pour lui. Mais ce qui me manquait, c'était de ne pas voir ses sourires, de ne pas pouvoir lui rendre, parce que je ne savais pas quand il faisait des sourires, de ne pas voir son regard, ses mimiques, des choses comme ça. Je trouve que ça, c'est plus frustrant de ne pas les voir que la physique, la plastique pure et dure.
Mais après l'accouchement, après le retour à la maison, comment s'organiser quand on est en situation de handicap? Sylvie, une jeune maman de 35 ans, paraplégique, nous accueille chez elle, à Cergy, avec Armand, son aîné de 3 ans, et dans ses bras, Gauthier, 3 mois.
Bonjour. Bonjour.
Allez-y, entrez. Maman, les petits viennent là.
Ah, il y a un chien.
Oui, c'est ça.
Ça va? On peut y aller sans crainte.
Ouais, de manière, là, elle a piqué un doudou, donc elle est super contente de son opération, donc voilà.
Bonjour. Alors, comment tu t'appelles?
Ça, c'est Gauthier.
Gauthier.
Gauthier a faim, donc là, on vous attendait pour attaquer la tétée.
Il a quel âge, Gauthier?
Il a 3 mois et demi. Allez, lipstick, pousse-toi.
Maman, c'est quoi ça?
Ça, c'est un micro.
Bonjour, tu t'appelles comment toi?
Comment tu t'appelles?
Tu sais plus le temps. Allez, viens. T'es un très très grand garçon toi. Mmh. Tu as quel âge? 3?
5.
2?
Ouais, tu te rapproches des 3 quand même.
3?
Pas, tout à, pas, pas encore, mais
oui, s'en approche. Oui,
hein, tu nous emmènes là-haut?
Oui. Non, non, je te porte pas, tu sais bien que je peux pas. Non, Armand, stop. Stop. Non. Ne réclame pas un truc que tu peux pas avoir. Allez. Remonte.
Les bras.
Les bras, c'est pas possible, chérie, tu le sais.
Armand, ça le dérange un petit peu quand vous parlez de votre handicap?
Je sais pas trop. J'ai pas vraiment l'impression, mais c'est possible. Hein. Mais franchement, avec ça, j'ai plus trop de problèmes. Depuis qu'il est gardé dans une crèche où il y a moitié des enfants valides comme lui et moitié des enfants qui ont une infirmité moteur ou cérébrale ou les deux, ça va vraiment beaucoup mieux parce qu'en fait, bah, il s'est rendu compte que ses petits copains à la crèche, ils ont des attelles, ils ont des soins, ils vont chez le kiné, tout ça. Enfin, c'est les kinés qui viennent à la crèche. Moi, une des plus belles images que j'ai d'Armand en tête, c'est quand on a fait une sortie avec tous les enfants de la crèche au parc Astérix là, à l'automne. Et donc, on avait plein d'enfants valides et puis aussi plein d'enfants en fauteuil, en béquille, en déambulateur, etc. Et donc, il fait, à un moment donné, dans le parc, il y avait une grande allée où il y avait personne. Ils décident de faire la course tous. Et Armand faisait la course avec une petite fille en fauteuil, en la tenant par la main, et l'éducatrice derrière qui poussait le fauteuil. Je trouve ça super, quoi, pour lui de... Non, je t'ai dit ce matin que je n'ai pas trouvé le casque de ton petit Ninjago, et je pense qu'il est perdu.
Tu vois? Comment tu l'aides, ta maman?
Je l'aide quand on fait la cuisine.
Ah! Tu sais faire la cuisine, toi?
Ouais.
Ouais?
Du coup.
Et Armand, est-ce que tu fais attention à ta maman un petit peu?
Oui.
Pour pas qu'elle tombe?
Oui.
Oui? Tu lui tiens la main?
Moi, c'est sûr qu'elle est de la mouillette. Je ne donne pas la main. C'est sûr qu'elle est tombée. Je ne donne pas la main. C'est sûr. Mais de la mouillette à côté, quand elle est sur le lit. Aussi, mais une main sur là, et après, elle fait la tétée.
Ah, ça
oui,
c'est bien.
Mais sans bras, comme ça.
Bah oui. Mais quand vous marchez comme ça dans la... Dans, tu vois, quand tu vas aller marcher, par exemple, pour aller au rafting, tu vas marcher un petit peu?
Oui, mais pour manger la gueule, je vais aller vite.
Bah oui, mais tu peux pas aller dans les bras de ta maman.
Bah oui, j'ai beaucoup de chien quand elle va dans les bras.
Bah oui. Et toi, comment tu fais alors? Tu lui tiens la main?
Bah oui. Bah oui, quand on est pas grand, je lui tiens la main.
Bah oui, puisque t'es un grand maintenant. Hein? Il parle un petit peu avec vous, vous en parlez ou pas de votre accident, de ce qui vous est arrivé?
Mais c'est pas conseillé en fait. S'il pose des questions, je réponds. Mais sinon, c'est pas à moi de lui dire. Voilà, de lui prendre la tête avec ça. Genre j'ai mal ou quoi. Bon, il s'en rend bien compte, hein. Donc des fois il me demande pourquoi, je lui dis bah, parce que j'ai un gros bobo dans le dos et puis voilà. Mais c'est aux enfants de venir à la pêche aux informations. Mais par contre s'ils nous en parlent pas, c'est que ça... Ah non, ça suffit. C'est que ça les perturbe pas et que du coup il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'en parler. Donc quand il pose des questions, je lui réponds. Mais c'est rien ça. Tiens, regarde. Ça, lui, là, tu l'aimes bien. Ça pourrait peut-être bien t'occuper. Allez. Où es-tu tendu, mon chéri? Regarde.
Alors? Toi qui es si souriant d'habitude.
Je pense qu'il va falloir que je te mette au dodo.
Mais t'as plu, toi, alors moi, j'ai pas plu.
Oui, mais comme t'as rien appuyé derrière, c'est bon. Voilà, la table à manger, elle est aussi à une hauteur que j'ai pas à me pencher. Et pareil pour la baignoire de boutier. Où, Et je prends la chaise et je lui donne le bain assise, en fait. Parce qu'un fauteuil roulant, ici, ça pèse pas.
Comment vous faites pour monter les escaliers? Vous montez avec le bébé?
Dans l'écharpe.
Ouais, mais celle-là, je l'ai. Il y a une crainte particulière? Vous avez non, plus ici, peur non. que d'autres ici, mamans, non, de tomber
ici,
ou pas?
Ici, non, mais par contre, ailleurs, oui. Non, dès que je suis dans des situations que d'escaliers, de marches, de choses que je ne connais pas, là, j'ai vraiment la crainte de tomber. Si je le sens pas, je laisse des collègues, amis, tenir Gauthier le temps de faire un passage un peu plus compliqué.
Donc c'est ça, il faut toujours en fait prévenir, c'est ça, le risque oui, éventuel de tomber.
C'est ça, il faut tout anticiper. Il n'y a pas de place pour l'imprévu dans mon quotidien.
On est à Cergy, mais on a l'impression d'être au fin fond de la campagne.
Eh oui, c'est la base de loisirs. Il y a 5 étangs en tout. Et 7 km de chemin.
Avec les enfants, c'est génial.
Ah oui, ça, c'est top.
Dangereux ou pas?
Non. Non, parce que moi, il connaît. Sauf quand le chien fait n'importe quoi. Il stick.
Ah là, vous multipliez les difficultés parce que vous prenez le chien avec vous.
Oui, parce que le chien est en éducation pour m'aider après. C'est pour ça que je prends que des gros chiens.
Ah, d'accord.
Donc, il faut que je l'emmène à chaque fois. En fait, à terme, je vais faire comme avec ma précédente chienne, c'est qu'elle m'arrive tellement haut que je peux m'accrocher au collier sur les difficultés.
D'accord.
Là, elle sait déjà qu'elle doit me tracter dans les côtes. Et maintenant, il faut que je lui apprenne les escaliers. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Elle n'a que 5 mois, donc ça ne sera pas finalisé avant plusieurs mois. Après, c'est... Armand, attention, voiture! Armand, tu attends. Oui, bien sûr, mais d'abord, je vérifie qu'il n'y a personne.
C'est difficile, le regard des autres?
Non. Non. C'est un peu pénible quand j'ai les enfants, ouais. Quand je suis toute seule, ça va, mais j'ai des remarques des fois sur le fait... J'ai déjà entendu des remarques parce que quand Armand était plus petit et que j'étais en fauteuil, maintenant avec Gauthier. Gauthier, ça passe mieux parce qu'il est petit, donc c'est normal qu'il soit en écharpe de portage. Mais après, quand ils se tiennent assis, et même quand ils marchent, on est obligé de les garder en écharpe dans le fauteuil, parce que sinon, s'ils tombent du fauteuil... ou qui se sauvent en courant, on a quand même un gros souci. Et j'ai entendu des remarques du style « t'as vu, elle attache son fils » ou des choses comme ça. Et ça, c'est un peu désagréable parce que les gens, ils parlent sans savoir, en fait. Donc,
Enfin, sans se soucier que vous l'entendiez.
Ouais, oui, bah oui, parce que ça, alors ça, c'est le gros principe du fauteuil, c'est que les gens sont persuadés que parce qu'on est beaucoup plus bas, que l'on n'entend rien, que l'on ne voit rien.
Quand elle connaît son trajet, Sylvie, qui est paralysée jusqu'au genou, peut quitter son fauteuil et marcher grâce à des attelles. Est-ce que vous avez un peu appréhendé le fait justement de l'après-accouchement? Quand on a un handicap, est-ce qu'on se dit « est-ce que je vais être capable ? Est-ce que c'est possible ?»
Ah oui, énormément. Pas pour le deuxième, mais pour le premier, oui. Je me disais, oh là là, je rentre du boulot, j'ai pas d'enfant, je suis déjà crevée, j'ai mal partout. Je suis obligée de m'allonger tellement j'ai mal. Comment je vais faire quand il va falloir gérer le soir, les enfants, la douche, enfin voilà, tout ça. Puis en fait, on trouve l'énergie. On a mal, mais on fait quand même, alors qu'avant j'avais mal et je faisais pas. Je devrais rouler plus vite encore. C'est des gens qui tournent en fait pour se garer là.
Mais là, vous avez intérêt, voilà, le genre de voiture qui arrive comme ça, qui déboule à grande vitesse. Votre petit garçon qui est sur son vélo, vous avez intérêt à réagir vite. C'est de l'imprévu. Comment vous faites?
Ah bah, je fais tout à la voix. Je cours pas. Mais Armand sait qu'il doit m'obéir à ce moment-là. Et puis après,
Bah, je m'interpose, hein, sinon si je vois une voiture arriver, je fais signe à la voiture. Hein. De toute manière, je ne peux pas courir après lui en vélo. Donc,
Vous avez des aides, par exemple à domicile, des personnes qui peuvent venir vous aider pour les enfants?
J'ai une femme de ménage.
Oui, ça comme tout le monde, mais des aides particulières pour...
Attention! Ah non, c'est pas là.
Est-ce qu'on propose une aide pour les enfants?
Ah non, moi j'ai droit à rien. Non.
Retour de maternité?
Non, j'ai rien du tout. Rien du tout. Mes parents, heureusement. J'ai attendu que mon père soit à la retraite pour faire des enfants, heureusement.
C'est vrai, vous êtes beaucoup?
Ah oui, 4 semaines. Hein. 4 semaines non-stop au retour de la maternité, avant que je sois suffisamment remise pour m'occuper d'Armand d'abord, de Gauthier ensuite, toute seule. C'est long, 4 semaines. Hein. Pas beaucoup de parents qui le font. Non. Et c'était vraiment nécessaire. Alors, heureusement, Béa et toute son équipe m'avaient prévenu à l'avance. Et puis, heureusement, c'est quand même fait. Voilà, c'est une équipe qui fonctionne vraiment à la bonne humeur et au sourire. Hein, vous l'avez vu avec Béatrice. Et donc, ça aide à faire passer les choses beaucoup plus facilement. Quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est un peu... Là, pour Gauthier, j'ai eu des contractions tout un dimanche avant d'accoucher. 5 semaines avant le terme, j'ai fait un texto à Béatrice. Elle m'a rappelé dans la foulée. On est dimanche, quoi. Elle est censée se reposer. Mais elle a pris des nouvelles jusqu'à 23h, quoi. Voilà, ça, c'est Béatrice.
Vous la tutoyez?
Oui.
C'est elle qui vous l'a proposé ou comment?
Ça s'est fait naturellement, en fait.
Comment vous pourriez la définir, Béatrice?
Ah, c'est un sourire. C'est un sourire ambulant, je trouve. Voilà. C'est une nana, elle a une vie super dure et vous ne l'entendrez jamais se plaindre.
Elle va goûter?
Non. Non.
Pourquoi?
Elle sourit tout le temps, elle rigole tout le temps. Dans les couloirs de l'hôpital, on l'entend arriver à distance rien qu'au rire.
Hôpital Montsouris, réunion de bilan pour les 6 mois de la consultation gynécologie.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, je pense que pour démarrer la réunion, là, donc on fait un bilan d'activité à 6 mois sur cette consultation gynécologie handicap.
Je vais vous présenter un petit peu le résumé de ce que l'on le rappelle. Donc, cette consultation a débuté cette année le 9 janvier. On avait d'abord une consultation par semaine jusqu'en mars 2015. Puis après, on est monté en charge à 2 consultations par semaine. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Et je voulais vous signaler qu'on a quand même... Alors, c'est la deuxième personne qui me contacte. On a déjà eu un premier contact par mail d'une maman pour sa jeune fille de 13 ans, en situation de handicap mental, pour une demande singulière, et pour lesquelles j'ai demandé à Nathan pour savoir si on pouvait l'accueillir. On l'a reçu, et j'ai eu ce matin encore une deuxième demande, justement aussi du même ordre, qu'on accueille au mois de septembre, pour une même demande singulière, par rapport à la peur de vivre en institution, avec tout ce qui se passe dans les institutions, les attouchements et choses comme ça. Et les mamans ont très peur de leur fille par rapport à la grossesse, par rapport à tout ça, par rapport à leur corps. Et on a cette demande-là qui est nouvelle. Hein.
Moi, j'ai l'impression qu'on ouvre une espèce de boîte de Pandore, là, à l'heure actuelle, beaucoup de champs complètement nouveaux, non explorés. Mmh. En gros, on a des gens qui sortent du bois, qui viennent nous voir, qui viennent te voir, des personnes qui étaient jusqu'à présent non visibles.
Pour vous, être responsable d'une grossesse, donner le feu vert à une personne qui est handicapée mentale, c'est une trop grosse responsabilité. Enfin, vous ne savez pas si vous avez envie de la prendre.
C'est une responsabilité pour moi personnelle, ça c'est clair. C'est une responsabilité pour la société, c'est une responsabilité pour la famille tout autour. Je ne sais pas où il faut s'arrêter. Je ne sais pas où est la frontière entre le bien et le mal. Je suis incapable de répondre à ça. Je sais que ça me pose problème, c'est tout ce que je sais pour l'instant.
Et c'est vous qui décidez ?
Moi, je ne déciderai jamais tout seul. Si on a des décisions à prendre, elles seront faites en groupe avec l'ensemble des professionnels et dans le cadre de ce qu'on peut appeler une réunion d'éthique, en tout cas un groupe de réflexion qui donnera de manière collégiale et après une réflexion importante un avis. Je ne prendrai jamais une décision tout seul à ce sujet. Et je ne sais pas pour l'instant du tout quelle devrait être notre réponse. C'est un vrai problème de fond pour moi, je ne sais pas résoudre.
Vous repartez grâce à votre fille.
Oui, je suis contente parce que bon, elle m'a proposé de venir me chercher ce soir.
Est-ce que globalement vous étiez une maman qui lui en demandait plus ?
Non. Non, jamais, parce que justement je voulais pas qu'elle soit un enfant, on dit, compensateur. Parce qu'elle n'avait pas ce rôle-là de compenser mon handicap, bien évidemment. Alors de temps en temps, c'est sûr que s'il y avait un truc qui était perché, je lui demandais gentiment de me l'attraper. Mais c'est sûr que c'est pas. Je ne l'ai pas fait avant un certain âge, bien évidemment, pour pas qu'elle tombe ou pas qu'elle. Etc. Bien évidemment, je n'avais pas lui demandé ça à 2 ans.
Vous êtes en où ? Il y a un parking ?
Elle rentre, oui, par le parking.
Ouais.
Par derrière. Ça va ? Ça roule mal, c'est ça ? Salut, ma belle. Tu vas bien ?
Bah oui.
Bon, bah on va rentrer. Donc ça, je vais le mettre devant et puis je plie peut-être.
Comment vous faites là alors ?
Je vais le mettre dans la voiture, je vais faire un transfert. Et puis Bati va plier le fauteuil pour le mettre dans le coffre.
Vous le transférez toute seule ?
Ouais. Alors ça, oui, ça, heureusement.
C'était Maternité et Handicap. Merci à Béatrice Idiard-Chamois et aux mamans. Vous connaissez par cœur, Mathilde ?
Ouais.
Hop, en trois voilà. Coups, le fauteuil est plié.
C'est bon.
Coordination, Irène Omelianenko. Attachée d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Prise de son, Philippe Etienne. Mixage, Benjamin Vignal. Un documentaire de Laetitia Krupa, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docs.